Vous écoutez
RMC.
Vendredi 19 juin,
l'info sur RMC.
8h02, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Frappé parce que policier, le témoignage glaçant ce matin sur RMC du fonctionnaire roué de coups à Lyon en début de semaine. Il est traumatisé. Rouler moins vite pour respirer mieux, passer de 130 à 110 km/h sur les autoroutes. C'est l'une des propositions phares de la Convention citoyenne sur le climat. La copie finale sera rendue dimanche à Emmanuel Macron. Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement par visioconférence aujourd'hui. Le plan de relance de 750 milliards d'euros a été proposé par la Commission. Bienvenue à tous sur RMC. Le témoignage d'un homme traumatisé ce matin sur RMC, celui de ce policier passé à tabac dans la nuit de dimanche à lundi à Lyon. Il a quitté l'hôpital hier soir mais n'est pas rentré chez lui par peur de représailles. Alexandre, 34 ans, a vu sa vie défiler alors qu'il se trouvait avec sa compagne quand il a été violemment agressé. Il a raconté à Gwenaëlle Vendrestin et Valentine Roux ses longues minutes d'horreur.
On voit arriver une douzaine de personnes qui sont en train de nous chercher. Ah, ils sont où ces enfoirés? Ah, c'est toi l'enculé de flic qui t'en est pris à mon pote. Et s'en est suivi un lâchage complet où ma tête a servi de ballon de foot. J'ai dû subir une quarantaine de coups de pied derrière la nuque et la tête. Et à chaque coup, je sentais soit mes vertèbres craquer, soit ce début de flottement où vous commencez à être chaos, en fait, où vous commencez à vous sentir partir. À chaque coup, moi, je commençais à me dire, est-ce que à la prochaine, je vais finir tétraplégique ou est-ce que je vais juste mourir? Je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Je peux plus tenir, j'ai plus la capacité physique. Ce qui me sauve, les collègues qui arrivent aussi vite et ce voisin qui leur dit que les policiers arrivent. Là, dès que je me retrouve seul le soir, je revis la scène où mon lynchage. La nuit, je compte plus les moutons, je compte les coups qu'on me porte à la tête.
Et je précise que 3 personnes, dont 2 adolescents, ont été mises en examen pour violence volontaire. 2 sont derrière les barreaux. Ils ont ingurgité des milliers de pages de rapports, passé des semaines, des mois, rencontré des dizaines d'experts. Les 150 participants de la Convention citoyenne pour le climat vont rendre leur copie verte dimanche à Emmanuel Macron. D'ici là, ils vont se réunir une dernière fois pour voter pour les mesures qu'ils gardent. Romain Cluzel.
Tirés au sort il y a 9 mois, ces 150 citoyens se sont formés et ont auditionné des dizaines de personnes pour publier des mesures très précises. Par exemple, la Convention propose de rénover obligatoirement les logements énergivores avec des objectifs, rénovation des passoires thermiques d'ici 2030 pour passer en catégorie A ou B. Et si ce n'est pas le cas, des sanctions sont proposées. Interdiction de louer ces passoires thermiques dès 2028. Autre proposition concernant les transports, réduire la TVA sur les billets de train à 5,5%, mais aussi limiter la vitesse sur l'autoroute à 110 km/h. Les citoyens disent être conscient de l'impopularité d'une telle mesure, mais défendre sa vertu écologique. Une fois votées ce week-end, ces mesures seront remises à l'exécutif qui a désormais la main. Emmanuel Macron s'est engagé à les retranscrire sans filtre, soit au Parlement, soit par décret, soit dans un référendum.
Et William Ocan est l'un des citoyens de cette convention. Ce Nantais de 33 ans, architecte, a travaillé sur les thématiques du logement. Il est impatient, évidemment, de rendre concrètes les mesures décidées.
Il y a une certaine impatience de pouvoir enfin transmettre ces mesures. Dans le groupe Se Loger, on avait à cœur la rénovation énergétique globale de l'ensemble des bâtiments en France, de réguler le chauffage et la climatisation dans les lieux publics, et un troisième élément aussi de lutte contre l'artificialisation des sols, de faire attention à où on construit maintenant, et de construire en priorité sur des zones déjà artificialisées. Donc là, on prend des exemples de anciennes friches industrielles, et surtout, on veut maintenant avoir cette phase-là d'ouverture, de discussion avec tous les Français, quoi.
À retenir également dans l'actualité, le gouvernement qui va reporter d'un an la suppression de l'avantage fiscal sur le gazole non routier utilisé par les engins de chantier. RMC 8h06, la Normandie sous surveillance. Ces derniers jours, le nombre de cas de Covid a dépassé le seuil de vigilance avec la multiplication de foyers de contamination. Aurélia Manoli, pour l'instant, la région reste verte.
Oui, car seul l'un des 4 critères de la crise sanitaire repasse en orange en Normandie. Il s'agit du fameux R0, le nombre de personnes qu'un qu'un patient va contaminer. Car depuis début juin, 5 clusters sont apparus au sud de Rouen, 4 dans des foyers familiaux, conséquence de réunions familiales au cours desquelles les gestes barrières n'ont pas été respectés, selon le directeur de l'Agence régionale de santé. Au total, une trentaine de cas repérés. Toutes ces personnes rapidement identifiées terminent actuellement leur quatorzaine à domicile. Le cinquième cluster se trouve dans un EHPAD. 13 personnes contaminées, les visites y ont été suspendues. Mais la situation n'est pas préoccupante, selon l'ARS, qui rappelle que les gestes barrières doivent continuer à s'appliquer, même chez soi, en famille.
Merci Aurélia. Il y a urgence de trouver un accord pour relancer l'économie européenne. Les chefs d'État membres de l'Union vont discuter ce matin par visioconférence. Le plan de relance proposé fin mai par la Commission se chiffre à 750 milliards d'euros. Paul Barcelone, le plan est soutenu principalement par la France et l'Allemagne, mais il reste à convaincre plusieurs États encore récalcitrants.
C'est une vraie négociation qui s'ouvre. Concrètement, tous les pays de l'Union européenne sont d'accord pour un plan significatif financé par un emprunt commun. Mais ce qui coince, c'est la répartition des 750 milliards d'euros. L'idée serait de se baser sur trois critères. La population de chaque État, le PIB par habitant et enfin le taux de chômage moyen sur les 5 dernières années. Mais certains pays estiment que ces critères relèvent trop du passé, des critères qui pourraient favoriser des pays comme la Bulgarie, la Slovaquie, qui ne sont pas les plus touchés par la crise du coronavirus. Alors, pour parvenir à un compromis, il faudra un autre sommet avec des discussions physiques, estime un proche d'Emmanuel Macron qui veut aller vite. Compte tenu de l'urgence de la crise, le chef de l'État espère signer cet accord au plus tard mi-juillet.
Et si le visage du célèbre Uncle Ben disparaissait des paquets de riz jugés racistes, le packaging pourrait donc changer en plein mouvement sur les violences policières, les discriminations raciales aux États-Unis. Le géant agroalimentaire Mars estime que le temps est venu de faire évoluer l'identité visuelle d'Uncle Ben. Margot Bourdin.
Accusé de véhiculer des stéréotypes racistes, le célèbre logo de la marque Uncle Ben's, qui représente un homme noir, âgé et souriant, va changer. Une bonne nouvelle pour Louis-Georges Thin, le président du Conseil représentatif des associations noires de France.
Les marques sont évidemment un élément de la culture populaire. On sait l'imaginaire de Balagna, par exemple, en France. C'est beaucoup par les marques ou par la publicité que les représentations se diffusent.
Une autre marque américaine qui commercialise de la farine et du sirop d'érable, Aunt Jemima, a également prévu de changer de nom d'ici la fin de l'année et de se débarrasser de son visuel, une femme noire au sourire éclatant.
L'hystérisation du racisme est la pire des choses pour le combat contre le racisme.
Pour Franck Tapiro, conseiller en communication, ces marques agissent plus par opportunisme.
Les marques réagissent sur l'émotion. Et sur le coup de l'émotion, elles se disent « il faut changer quelque chose. Oh, il y a une représentation noire qu'on a depuis un siècle ». On va nous traiter de racistes, on l'enlève. Arrêtons de faire des faux combats.
De nombreuses marques ont également prévu de verser des dons pour améliorer l'intégration des minorités et promis de faciliter leur embauche.
Un vrai concert dimanche soir à Bercy, 2000 personnes dans une salle qui peut en accueillir normalement jusqu'à 20 000. Règles sanitaires obligent, donc des règles très strictes qui vont s'appliquer dans les bars dimanche pour la fête de la musique. Reportage à Toulouse, signé Jean-Wilfried Forquès.
Dans ce café-restaurant, pas évident de trouver une place pour les bandas, la fanfare locale qui va animer la soirée.
Les bandas, on va les mettre à la place de la table juste à côté de toi. On va essayer de les écarter un maximum et que les gens vraiment sur la salle, comme d'habitude, soient écartés par groupe de 10 personnes maximum.
Pour Julien Roumaniac, le gérant, la distance sociale risque de gâcher la fête.
Quand vous écoutez ces musiques-là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont envie ? Ils ont envie de se sauter dessus, de chanter ensemble, de passer un moment convivial. Et là, ce moment, on nous le supprime pour le moment.
Luc et plusieurs amis musiciens se relaieront sur scène dans une maison de campagne sans public. Le concert sera retransmis sur Facebook et diffusé dans 4 cafés toulousains. Luc en arrive même à regretter les concerts improvisés pendant le confinement.
Même sur le balcon, bah, y avait les gens, ils étaient là, ils étaient en face, ils applaudissaient, ils attendaient que ça. Et là, bah, du coup, pendant la fête de musique, bah, on l'aura pas. On n'aura pas ces gens et ce retour des gens. Malgré tout, on va quand même jouer. On joue pour la fête de la musique. On est musicien, donc on joue pour la fête de la musique.
À Toulouse, aucun rassemblement musical spontané ne sera autorisé.
Voilà, donc fête de la musique, c'est dimanche. C'est toute la journée,
la fête de
dimanche
la musique.
Soir.
Vous allez jouer, vous allez. Mais oui, c'est
on va dimanche. Chanter, on va danser.
Vous savez que c'est l'été, hein, dimanche.
C'est l'été, vous vous c'est vrai.
On est déjà.
C'est même samedi, déjà. Je crois, l'été.
Mais c'est même samedi. Demain, ouais. C'est ah même oui. Demain, ouais. C'est vrai. Quentin qui veille à tout.
Techniquement, ouais.
Avec, bon. Il arrête. Allez, il est 8h11 minutes. Nous sommes avec François-Michel Lambert, qui est député des Bouches-du-Rhône et co-président de Liberté, Écologie, Fraternité. François-Michel Lambert, bonjour.
Bonjour, Jean-Jacques.
merci d'être avec nous. Alors d'abord un peu de politique, puis après nous allons parler du cannabis et nous allons parler de la Convention citoyenne. Un peu de politique à Marseille, vous pensez que la candidate écologiste Michèle Rubirola va être élue ?
Je soutiens Michel depuis le premier jour. Elle est dans une très belle dynamique. Quelle est la dynamique? Ben, c'est ce que les citoyens veulent. C'est que les gens se rassemblent, j'allais dire joyeusement, parce que c'est quand même une campagne joyeuse quand en face, une droite complètement naftalée est en train de se décomposer, qui n'arrive plus à créer de l'espérance. Et je crois que c'est une bonne leçon nationale. Bah,
c'est
de l'espérance.
Peu...
Nous devons être tous sur de l'espérance.
Mais c'est un peu un rassemblement hétéroclite, quand même, non? Derrière Michel Rubirola, non?
Bah, justement,
hétéroclite, je suis un peu méchant, mais.
Mais non. C'est cette capacité à travers un rassemblement hétéroclite, à aussi être joyeux. J'insiste sur ce terme.
Oui.
Ils ont appelé ça le printemps marseillais. Regardez les affiches qui sont de couleurs flashy. Regardez comment ils font leur campagne. Ils sont en train de donner de l'espoir, de l'envie. Et je crois que la politique, c'est ça qu'on doit faire. Et non pas se refermer, être en tension, créer de la tension. Et que ce soit une belle leçon au niveau national. Et je pense, permettez-moi Jean-Jacques, que ce sera aussi en 2022 l'un des enjeux. Celui ou celle, et moi je préférerais que ce soit celle, qui créera de l'espérance, a beaucoup de chance d'être la future présidente de la République.
Vous avez une petite idée, là?
J'espère, j'en ai
François
pas...
François-Michel Lambert, non, je vous dis ça parce que... Alors, où vous situez-vous? Vous étiez dans la République En Marche?
Surtout, je viens de croiser Noël Mamère. Moi, je suis rentré en politique avec Noël Mamère il y a 30 ans.
C'est vrai, c'est vrai,
François-Michel Lambert. Écologiste.
Vous avez toujours été écologiste, mais vous avez accompagné Emmanuel Macron.
Non, Nicolas Hulot et Emmanuel Macron, si vous me permettez. J'ai quitté la République En Marche au moment où Nicolas est parti, parce que dans la République En Marche, il manque beaucoup de joie, hein, on va déjà revenir sur on voit les turpitudes du dernier moment, mais il manque surtout beaucoup de fondements de pensée écologique.
Donc une candidate en 2022, vous avez déjà une petite idée?
Présidente à l'arrivée. Candidate
peut-être
et présidente.
Non, mais vous avez déjà une petite idée?
J'ai des grands espoirs, mais.
Sur qui?
Laissons faire. Laissons faire.
Mais vous avez un nom dans la tête.
J'en ai un, oui, mais laissons les victoires.
Non, mais dites-moi, dimanche. Non, mais c'est très intéressant.
Les victoires dimanche.
Vous, député, non, mais c'est très intéressant qu'il y ait un mouvement. Non, mais c'est extraordinaire. Hier matin, non, mais ça bouge de tous les côtés. Dans le cadre de cette présidentielle. Hier matin, j'avais Robert Ménard qui disait que Marine Le Pen, c'était fini, qu'elle ne serait pas présidente en 2022, qu'il fallait un autre candidat à droite, à l'extrême droite. Et vous dites, maintenant, il faut une candidate qui va nous représenter.
Et qui ramènera ce que France, les Français ont besoin.
Mais je vois pas quel est ce profil. Là. Je vois pas. Dites-moi un peu plus là. Non, mais dites-moi. C'est une élue déjà?
Oui, bien sûr. J'ai des petites idées, mais laissez. Un dimanche, le 28.
Vous voulez pas trop me dire.
Il y a encore des rendez-vous.
Quand est-ce que après les municipales, on saura ça?
Voilà, pour ma part. Après.
Donc c'est pas Yannick Jadot votre candidat?
Yannick, c'est un prénom féminin aussi, mais ce n'est pas Yannick Jadot.
Bon, d'accord. Bon. François-Michel Lambert, avec une vingtaine d'élus de tous bords, vous réclamez la légalisation du cannabis en France.
Tout à fait. Il faut de regarder les choses en face.
Ce n'est pas la première fois que vous réclamez la légalisation. Hein. Ça n'avance pas beaucoup, dites-moi.
18 juin 1976, une tribune dans Libération, 44 ans, où il y a un appel à la légalisation du cannabis. L'année dernière, nous avons déposé à une vingtaine d'élus d'une proposition de loi pour la légalisation du cannabis contrôlé par l'État, hein, une régie d'État, de la graine jusqu'à la distribution. Pourquoi ? Il faut sortir du mensonge dans lequel s'enfonce la France, hein, cette politique de toute répression. La France, c'est 5 millions de consommateurs réguliers. C'est le pays au monde où on consomme le plus par habitant. Alors qu'on a la répression l'une des plus dures au monde, au moins la plus dure d'Europe, elle est en France.
Ça a été un peu assoupli. Aujourd'hui, c'est une amende, hein, si on est consommateur.
Attendez, je crois que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé depuis mardi.
Oui.
200 euros et inscription sur le casier judiciaire.
Oui, c'est vrai.
Sur un casier judiciaire.
Sur un casier judiciaire, oui.
C'est-à-dire que vous consommez aujourd'hui, Vous pouvez pas conduire de voiture pendant 10 ans, de voiture de location. Fabien Barthez, 1996, il consomme du cannabis, il n'est pas à la Coupe du Monde 98 et nous, on n'est peut-être pas champion du monde. Et est-ce que c'est le niveau de ce que nous devons avoir comme répression ? Je dis pas que c'est bien de consommer le cannabis. Je dis qu'on se trompe dans la façon dont on doit aborder le sujet. Voilà, donc c'est un enjeu sanitaire, parce qu'aujourd'hui, comme c'est illégal, tout et n'importe quoi est fumé. Une collègue, Delphine Bagary, députée et surtout médecin urgentiste, me dit un jour, à Manosque, aux urgences de Manosque, hein, donc c'est pas ces urgences qu'on pourrait croire des quartiers nord de Marseille, toujours cette image, si personne arrive le samedi soir parce que le dealer avait changé l'herbe qu'il leur vendait et que c'était de l'herbe frelatée. Et donc ça leur a mis à l'envers. Donc voilà, aujourd'hui on laisse 5 millions de personnes consommer un produit qui arrive d'on ne sait où, qui est chargé de pesticides et voire parfois coupé de plastique, de caoutchouc, avec des conséquences sanitaires extrêmes. Donc si on veut faire de la prévention, je crois que le Covid-19 nous a amené à imaginer une autre politique de santé. La prévention, ça commence par faire baisser les risques. Et sur le cannabis aujourd'hui, 5 millions de personnes sont en risque sur leur consommation.
Et je ne parle pas du trafic dans certains quartiers, hein, du trafic de cannabis dans certains quartiers, de stupéfiants, pas que cannabis d'ailleurs, mais cannabis ou cocaïne, qui pourrit la vie des habitants de ces quartiers.
Moi, j'habite Gardanne, juste à côté de Aix-en-Provence. C'est la base arrière d'une grande partie des trafics. C'est en cœur de ville. Les gendarmes font autant qu'ils peuvent.
Bien sûr.
Mais moi, je sais qu'il y a des mamans aujourd'hui. Elles étaient petites filles il y a 20-30 ans. Et déjà, leur mère faisait contourner des espaces parce que c'est des points fixes de trafic et qu'elles veulent pas être dans un risque. En 30 ans, on n'a pas avancé d'un centimètre sur ce sujet. Ouais. Pas un centimètre.
François-Michel Lambert, j'ai deux questions. La Convention citoyenne va rendre ses propositions. Nous verrons bien quelles seront les propositions retenues. François-Michel Lambert, mais j'en ai une à 110 au lieu de 130 sur les autoroutes. Vous êtes favorable ou pas ?
Alors, la Convention citoyenne, il y a des articles ce matin dans une presse qui est assez critique et je soutiens, qui dit on n'est que sur des réponses techniques ou presque.
Oui, c'est vrai.
Et il n'y a pas des approches structurelles, manger moins de viande, rouler à 130 ou 110, d'autres éléments de cet ordre. Pas de taxe carbone. Moi, je prône, hier, j'ai défendu un impôt sur la fortune écologique, c'est-à-dire qu'on collecterait 2 milliards d'euros qu'on mettrait sur la rénovation thermique. Oui. Et ils n'ont pas eu le droit. Le président de la République leur a dit, vous ne faites pas de fiscalité. Vous ne réfléchissez pas à transformer en profondeur notre société. Au passé d'une société de propriété à une société de partage d'usage, puisqu'on parle de la voiture.
Oui.
Il vaut mieux des voitures partagées, même si elles roulent à 130, elles roulent, que des voitures en propriété qui sont immobiles dans la rue 90% du temps. C'est un gaspillage d'énergie, un gaspillage de ressources, un gaspillage de foncier terrible. Donc, il y a des choses sur lesquelles on va pousser. Je pense que le seul élément structurel que j'ai aperçu, c'est passer de 35 à 28 heures. Ça repose notre place dans la société. Il y a la question du télétravail, ils ne l'ont pas abordé, qui est une réponse structurelle de transformation. Mais passer de 130 à 110, je ne suis pas certain que ça va sauver la planète et sauver la France.
Bien, merci François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône. C'est Gardanne, votre circonscription.
Une très belle circonscription. J'ai au nord les anciennes mines de charbon et le bassin minier. Et au sud, je suis très heureux de le rappeler tout le temps, les très belles collines de Pagnol, toutes celles qui vous ont fait rêver.
Aïe.
Le château de ma mère, la gloire de mon père,
les
Manon
Bartavel.
Des Sources, les Bartavel. Donc Jean-Jacques, à très bientôt. Ouais.
À bientôt.
Et bravo pour Nîmes Olympique.
Merci.
Même si ce n'est pas le club que je supporte.
Bon, j'ai compris que vous étiez supporter de l'OM. François-Michel Lambert, merci beaucoup. Il est 8h20, vous êtes sur RMC.
À suivre, 900 000 emplois détruits en France. Ce sont les prévisions de l'UNEDIC, l'assurance chômage. Nous en parlons avec Frédéric Simotel dans un instant sur RMC.
RMC 6h-9h.
Bourdin Direct. Bien, Frédéric Simotel est avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Jacques.
L'UNEDIC. Vous savez que l'UNEDIC, ceux qui ne sauraient pas, gère le régime d'assurance chômage. En fait, c'est le comptable de l'assurance chômage. Eh bien, l'UNEDIC anticipe la destruction de 900 000 emplois fin 2020 par rapport au quatrième trimestre 2019. Ce sont des chiffres d'une ampleur inédite.
Oui. Exactement comme la crise que nous connaissons.
Exactement.
Même si l'économie est en train de repartir, plus vite que ce qu'on pensait.
Oui, on a quelques lueurs d'espoir, mais quand même le réveil s'annonce difficile. Hein, donc destruction de 900 000 emplois salariés, ce que nous a annoncé l'UNEDIC hier, ça correspond, ça veut dire qu'il va y avoir 630 000 demandeurs d'emplois supplémentaires, selon l'UNEDIC, donc à fin 2020. Ça signifie qu'en 2020, les dépenses
d'assurance chômage... Il va falloir payer le chômage.
Voilà, plus 17,7 milliards.
L'indemnisation.
Voilà, et ça
combien va... 10 plus 17 milliards.
17,7 milliards. Et alors, vous allez voir, il y a un chiffre qui est assez impressionnant, donc ça va avoisiner 60 milliards. Alors, pour l'UNEDIC, ça va représenter un déficit, là, de 25,7 milliards, là, à fin 2020. Or, ils anticipaient, avant la crise du Covid, ils avaient dit que notre déficit, ce sera à peu près 1 milliard.
Oui,
là, on est à 25.
On se dirigeait vers un équilibre.
On replonge, mais alors grand plongeon. Ouais. Et la dette de l'UNEDIC, parce qu'il y a une dette, ça va grimper à 63 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que l'UNEDIC finance à 50% le dispositif de chômage partiel.
Le fameux.
L'augmentation des dépenses d'allocation chômage, les reports de cotisation.
Ouais. Alors, une dette de l'UNEDIC qui va donc s'accroître parce qu'elle indemnise plus et surtout elle engrange beaucoup moins de recettes.
Mais oui, c'est ça.
Oui.
Le problème, c'est ça. Il faut savoir que l'assurance chômage est traditionnellement le 4 fois plus impacté pour ses finances parce que à la fois il dépense. Voilà, il faut donner les cotisations et derrière ils récupèrent de l'argent. Or là, s'ils ne récupèrent pas cette recette, eh bien ils vont justement ça va accroître ce déficit. Alors pour se financer, l'UNEDIC a dû procéder à deux émissions. Ils ont levé 8 milliards d'euros. Et puis bon, il y a quelques recettes, mais les recettes vont être en baisse de moins 16%. Et là, ils ne vont récolter que 33 milliards. Donc
on va trouver des solutions.
Il va falloir trouver des solutions. Et d'ailleurs voilà, donc les deux problèmes majeurs, c'est quand même ces 900 000 emplois détruits. Et puis derrière, c'est la dette de l'UNEDIC qui se creuse et comment
rembourser et qui remboursera.
Oui, et puis ça pose des questions sur le dispositif de chômage partiel. Jusqu'à quand on va pouvoir tenir?
Bien, c'est un peu pour ça peut-être que Gérald Darmanin, un peu vite, lundi matin, a lancé un peu un pavé dans la mare. Il a été repris dans la journée très vite par Muriel Pénicaud. Il a parlé de 60% d'indemnisation du chômage partiel. Mais bon, finalement, on reste au même chiffre pour le 1er juillet. Bien, merci, 8h28, merci. Nous sommes, merci à toutes celles et ceux qui sont avec nous. Le matin, c'est un vrai plaisir de réaliser cette émission. Nadine Morano, qu'on n'a pas entendue depuis bien longtemps, est notre invitée. Vous savez qu'elle est députée européenne, Nadine Morano. On va parler d'Europe, parce qu'il y a aujourd'hui le grand plan de soutien à l'économie, grand plan européen, puis... Je vais lui parler de l'affaire Fillon, je vais lui parler de Gaulle, je vais lui parler de Marine Le Pen, enfin beaucoup de sujets. À tout de suite, 8h29 sur RMC et BFM TV.
RMC, Bourdin Direct. RMC, Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin. Nadine Morano, bonjour.
Bonjour.
Député européen. Vous êtes rare sur les plateaux télé, là.
Mais à chaque fois que je viens, vous me dites ça.
Mais non, mais c'est vrai, non, mais je sais pas. Enfin bon, d'accord. Bon,
invitez-moi plus souvent.
Bon, allez, on va commencer avec l'affaire Fillon. J'avais envie d'en parler. Vous avez vu ce qui s'est passé? La magistrate en charge de l'enquête affirme avoir subi des pressions pour ouvrir une information judiciaire. Oui. Pression du procureur général. Éliane Houlette, qui dirigeait le parquet financier.
Nommée
par François Hollande, a d'abord résisté, évoquant la nécessité d'avoir plus d'éléments. Puis, Éliane Houlette a ouvert l'information judiciaire le 24 février 2017. Finalement, elle a dit aussi qu'elle était persuadée qu'elle avait suffisamment d'éléments pour le faire. Quelle réaction? Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous pensez que le pouvoir à l'époque a volé l'élection François Fillon?
Mais on n'a pas arrêté de le dire, Monsieur Bourdin.
Oui.
Donc il faut reprendre un petit peu nos déclarations à ce moment-là. On a bien vu cette célérité de la justice, du parquet national financier, qui sur la base d'un article du Canard enchaîné s'auto-saisit avec une rapidité incroyable. Et voilà, en fait, le parquet national financier était devenu un bras armé politique. Assassiner politiquement notre candidat. Cette élection, elle était considérée comme imperdable. Donc il fallait bien opérer d'une manière un peu plus violente.
François Fillon l'a perdu aussi de sa faute, en partie quand même, non?
Je pense que sa communication n'a pas été très bonne en la matière, mais je crois aussi que les faits le démontrent. Il y a eu eu des pressions. Elle le dit. Bon, c'est dommage qu'elle le dise que maintenant, hein, mais on n'est pas dupe. Personne n'est dupe. Donc, François Fillon a été d'ailleurs médiatiquement condamné. C'est ce qui était profondément scandaleux. Il y avait un jugement médiatique. Donc il était dans un piège, dans une espèce de souricière. C'était absolument dramatique. Et pour la première fois de la Ve République, la droite n'a pas eu de candidat au second tour de l'élection présidentielle. Ce qui est, c'est une opération.
Ça va peut-être vous arriver en 2022 aussi, hein,
oui,
que la droite n'ait pas de candidat. Je ne sais pas. Au second tour de la présidentielle, vous avez la droite qui est en pleine recomposition, non? Je ne sais pas parce que j'ai entendu hier Robert Ménard, qui était à votre place, nous dire que Marine Le Pen ne serait pas élue en 2022. Vous êtes d'accord d'ailleurs ?
Oui, je pense que Marine Le Pen n'a aucune chance d'être élue présidente de la République.
Mais pourquoi ? Pourquoi dites-vous tout cela ?
Mais pourquoi ? Parce que elle incarne encore le ras-le-bol, elle incarne la contestation, elle n'incarne pas une forme de proposition crédible. C'est une réalité. D'ailleurs, Robert Ménard le disait à votre micro hier, son programme économique est une hérésie. Enfin, la retraite à 60 ans, elle est l'anti-construction pour la France, enfin pour son avenir. On peut pas mettre entre les mains de Marine Le Pen l'avenir de la France. Enfin, c'est pas possible. Alors, c'est même pas crédible.
Robert Ménard appelait justement à un autre rassemblement avec d'autres personnalités, avec la droite, avec certains des Républicains. Vous seriez prêt à travailler avec lui ?
Mais nous, on se parle régulièrement. Hein, pour rien vous cacher, on s'est même appelé hier. Vous voyez,
après son intervention ?
Oui, parce que moi, je lui ai dit que j'avais une analyse différente s'agissant des partis politiques, parce que je pense que les partis politiques ont un rôle majeur, contrairement à ce qu'il dit. Alors, je comprends, lui, il n'appartient pas à un parti politique.
Oui.
Moi, j'ai appartenu au Rassemblement pour la République, j'ai appartenu au RPR, et maintenant, chez les Républicains. Nous avons une organisation territoriale de gens qui partagent nos convictions, nos valeurs, nos idées, qui viennent dans notre parti politique, qui travaillent dans nos fédérations départementales. Et aujourd'hui, on représente dans les communes les plus gros bastions de la droite et le centre. C'est nous qui les avons. Mais parce que nous sommes implantés, nous avons des racines locales dans les territoires. Et puis notre ADN, c'est le gaullisme.
Hein, j'allais en parler.
Notre ADN, nous, c'est le gaullisme. Donc, franchement.
Oui, Robert Ménard qui n'est pas particulièrement gaulliste.
Oui, mais moi, oui. Enfin, c'est le début de mon engagement
mais
politique.
Mais vous pourriez créer un grand
Maintenant,
rassemblement.
Il faut construire l'avenir.
Oui.
Il faut construire l'avenir.
2022 approche. Hein.
Oui, mais 2022 approche. Et puis, vous savez, quand j'entends sur les plateaux télé la première opposition, la force d'opposition, c'est Marine Le Pen. Mais enfin, excusez-moi, la réalité, c'est que le nombre de parlementaires, de députés qui incarnent l'opposition, la vraie opposition, ce sont les Républicains. Nous avons plus de 100 députés, plus nos sénateurs, plus les députés européens. C'est une force parlementaire qui nous pose de fait comme la première force d'opposition. Et puis
mais
sur
pourquoi est-ce que les Français ne le voient pas, ne le sentent pas parce que vous n'existez pas suffisamment, parce que vous n'avez pas de leader. Vous avez un leader. Qui est votre leader aujourd'hui? Qui serait votre candidat en 2022? Tiens,
mais
aujourd'hui.
Vous savez, bon,
vous le connaissez.
Non, mais vous l'avez rappelé tout à l'heure.
Oui.
Nous avons subi une très lourde défaite électorale.
Oui.
De ça, il a fallu
il y a 3 ans.
Se reconstruire. Nous faisons par nos territoires, puisque encore une fois, le premier tour des élections municipales ont démontré notre force.
Vous allez
locale.
Perdre peut-être Marseille.
Nous sommes en position de force partout dans les territoires, et c'est ça qui est important.
Peut-être
c'est...
Toulouse, nous verrons.
On verra. Mais simplement, déjà, rien que le premier tour nous démontre que nous sommes encore en force sur l'ensemble des communes de France où nous avions nos candidats. Donc, sans compter toutes les communes que nous avons gagnées au premier tour. Donc, de mémoire, on est à 56% des villes de plus de 9000 habitants. Donc, il faut quand même regarder ce que sont les Républicains. Nous, on est un parti de gouvernement. On n'est pas un parti contestataire. On n'a pas vocation à se fourvoyer dans la démagogie, dans des propositions qui ne sont pas réalistes, dans des propositions qui vont endetter le pays, qui ne prépareront pas l'avenir pour nos enfants. C'est pas ça, nous. Et la réalité, c'est que nous devons occuper justement cette voie centrale pour l'alternance pour la France. Alors oui, pour l'instant, c'est vrai, vous avez raison, même si nous sommes en ordre de bataille, nous n'avons pas d'incarnation présidentielle.
Non.
Et pour ne rien vous cacher, ça nous affaiblit un peu. Donc je suis pressée d'avoir...
Vous avez une idée ?
Vous avez une idée ?
Il faut nous donner encore un peu de temps. D'abord, non, nous allons
pas. Est-ce que vous voyez à l'horizon poindre votre candidat, le visage
aussi,
de votre candidat ou votre candidate ?
Non, mais notre force.
Un homme ou une femme ?
Notre force aussi.
Oui.
C'est que nous avons beaucoup de personnalités, de talent dans notre famille politique.
Oui.
Et de personnalités d'expérience.
Oui.
Parce que ça aussi, ça compte.
Ça veut dire
parce qu'on nous a fait un nouveau monde, là. On clique sur Internet et on pose sa candidature pour être député. C'est pas ça, la vie politique. Il faut de l'expérience. Il faut des convictions profonde, il faut une vision pour la France. C'est tout ça aussi, être candidat à des élections.
Et il faut être gaulliste. Votre candidat devra être gaulliste. Non, enfin, je dis gaulliste parce que tout le monde se revendique du gaullisme aujourd'hui.
Oui, mais être gaulliste, ça veut dire quoi ? C'est d'abord un message, vous savez. C'est d'abord.
C'est être aussi décolonisateur, quand même, non ?
Hier, on a fêté, l'appel du 18 juin.
Oui.
Bon, et cet appel, c'était quoi ? C'était un appel à la résistance, c'est le contraire de ce que fait M. Castaner et de M. Macron, qui, eux, mettent un pied, un genou à terre. Genou à terre. Moi, quand je l'ai entendu chez vous, Christophe Castaner, heureusement que j'étais assise, parce que sinon je serais tombée de l'armoire. Voilà quelqu'un qui est ministre de l'Intérieur et qui a toléré une manifestation illégale. C'est le contraire du gaullisme. Le gaullisme, c'est l'ordre, c'est l'autorité de l'État, c'est
manifestation de soutien à Adama Traoré, c'est cela.
Mais c'est scandaleux. Enfin, vous rendez compte
qu'il y a... Vous l'auriez interdite, vous ?
Mais bien sûr que je... Ben alors, il faut savoir.
Oui.
Où nous sommes en crise sanitaire et les rassemblements publics de plus de 10 personnes sont interdits, ou ça n'est pas interdit et vous permettez les manifestations. D'ailleurs, vous aurez constaté que le préfet de police a fait un article 40 pour dénoncer justement cette manifestation illégale, contrairement à son ministre de l'Intérieur. Donc complètement en porte-à-faux avec
le
ministre de l'Intérieur.
Le préfet de police,
Moi j'aime l'autorité, j'aime l'ordre.
Oui.
Et moi je ne supporte plus ce qu'on voit aujourd'hui. Alors ces minorités tyranniques là, qui veulent venir débouler des statues parce qu'il y a eu un fait très grave aux États-Unis, vouloir calquer ce qui s'est passé aux États-Unis en France, je trouve ça scandaleux. Parce que la manifestation de soutien à Adama Traoré, l'affaire Traoré, n'a rien de racial, M. Bourdin, mais rien. Rien. Elle n'a rien de racial. D'ailleurs, comme vous le savez, deux gendarmes qui ont procédé à son arrestation sont antillais.
Oui.
Mais on est dans une affaire judiciaire et dans un acte politique d'une espèce de minorité tyrannique qui veut faire pression, là encore, sur la justice. Et vous avez un ministre de l'Intérieur qui, de fait, s'est positionné du côté des délinquants et n'a pas soutenu ce qui aurait dû être son devoir et le respect de sa fonction, ces hommes. Il aurait dû soutenir la police, les gendarmes et même les policiers municipaux, l'ensemble de nos forces de sécurité. Aujourd'hui, il les a désarmés moralement.
Vous avez trouvé une cible, tous. C'est Christophe Castaner.
Non, c'est même
mais
pas ma cible. Moi, c'est même pas ma cible, Christophe Castaner. Je fais un constat, mais je vais vous dire la réelle cible.
Allez-y.
Aujourd'hui. C'est Emmanuel Macron. Monsieur
Allez-y.
Bourdin, quand Monsieur Macron, le président de la République, vient faire une déclaration télévisée et qu'il dit son respect aux forces de l'ordre, la reconnaissance de la nation aux forces de l'ordre, sont des mots. Les actes auraient mérité qu'il démette Monsieur Castaner de ses fonctions. On ne peut pas dire qu'on va tolérer une manifestation interdite. Il n'y a plus d'ordre. On ne peut pas dire que sur soupçon avéré de racisme, on prend des mesures de sanction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ça est contraire à la mission, à la fonction du ministre de l'Intérieur, couvert par le président de la République. Je suis désolée, c'est le président de la République aujourd'hui qui est le chef de l'État. Eh bien, le chef de l'État n'est pas à la hauteur.
On n'accepte ni la capitulation, ni la servitude, disait Charles de Gaulle.
Alors, il parlait aussi de bon sens et d'honneur, le général de Gaulle. Voyez-vous aujourd'hui du bon sens dans les politiques qui sont menées ?
Emmanuel Macron a perdu son honneur ?
Il a profondément affaibli la France. Franchement, Monsieur Bourdin, il a profondément affaibli la France. Je parle même pas du spectacle de la fête de la musique à l'Élysée. Rappelez-vous, c'était pitoyable. L'image de la France, sa force sur la scène internationale, sa force aussi d'un point de vue économique. La France est très affaiblie, comme vous le voyez. On va entrer à ce Conseil européen extrêmement affaibli.
Je vais en parler.
Oui.
Important aujourd'hui.
Oui, c'est très
Nadine
important.
Nadine Morano, quelques mots encore sur De Gaulle. Marine Le Pen est gaulliste, Jean-Luc Mélenchon est gaulliste, gaulliste,
Marine Le Pen, elle a fait une faute majeure. Enfin, elle aurait dû s'abstenir.
C'était un fiasco, son escapade à l'île de Sein.
D'abord, elle y va la veille, le jour de la capitulation. d'un point de vue historique, elle s'impose, alors que chacun sait que les racines du Front National se sont faites sur l'antigaullisme. Sont pas des gaullistes, sont des anti-gaullistes. Et pendant toute sa carrière, Marine Le Pen a accompagné son père. Alors après, si elle avait voulu changer de braquet politique, dans ce cas-là, elle créait un autre mouvement politique et elle se construisait une autre vision de la France. Mais elle ne peut pas se réclamer du gaullisme quand j'ai entendu dire il n'y a pas de parti politique de filiation au général de Gaulle. Pardon, le RPR est le parti de filiation à cette époque-là dans lequel moi je suis rentrée, puisque nous sommes de la même génération à peu près avec Marine Le Pen, ouais. elle oublie ça, elle Nadine oublie le Morano. RPF, elle oublie le RPR, ouais. Elle oublie l'UMP, elle oublie les Républicains, ça la dérange, mais la réalité c'est que la filiation gaulliste, c'est nous.
Alors, Marine Le Pen demande un moratoire sur l'immigration, c'est possible ça? Un moratoire sur l'immigration?
Enfin, moi, je crois tout simplement, ouais. Mais moi je le dis, j'attends pas Marine Le Pen pour parler des questions migratoires, comme vous le savez. On voit qu'aujourd'hui, on a une immigration beaucoup trop importante, une intégration défaillante. Et quand l'ensemble de nos compatriotes voient sur les plateaux télé ce qu'ils ont vu à Dijon ou ailleurs, je crois que ça n'est plus possible. Il faut limiter massivement l'immigration dans notre pays. Il faut renvoyer chez eux tous ceux qui sont en situation illégale. Il faut renvoyer les demandeurs d'asile qui commettent des délits et des crimes chez nous. Voilà, je veux dire, il faut une politique de fermeté.
Difficile de renvoyer des demandeurs d'asile. Difficile. Hein,
ah ben, quand ils sont demandeurs d'asile et qu'ils commettent un délit, ou quand ils se promènent avec des battes de baseball.
Difficile d'expulser des réfugiés, Nadine Morano.
Ah ben quand ils n'ont pas obtenu...
Parce que
obtenu...
j'entends ça ici ou là.
Mais
la Convention de Genève existe.
Non mais, quand ils n'ont pas obtenu le statut de réfugié...
Vous savez, quand on est réfugié, je ne parle pas de ceux qui ne les ont pas obtenus, je parle des réfugiés. Nadine Morano, que j'ai entendu dire, faut renvoyer les réfugiés, mais ce n'est pas possible.
Non mais, Monsieur Bourdin,
oui.
On a une législation, comme vous le savez.
Oui.
Bon, il faut voir que tous ceux... Enfin, ceux... Il y a une très grosse partie de ceux qui sont en situation illégale, déboutés du droit d'asile. Donc, déboutés du droit d'asile, ils doivent être reconduits chez eux.
Oui.
Et comme vous le savez, c'est à peine un tiers de gens qui ont été déboutés du droit d'asile qu'on renvoie chez eux. Donc, en fait, vous savez très bien que la reconduite ne fonctionne pas. Voilà. Moi, j'ai été dans un centre de rétention administrative. Je peux vous dire que même les personnels qui y travaillent sont atterrés, parce que ceux qui sont là, qui devraient être renvoyés chez eux, parce qu'ils sont justement en centre de rétention administrative pour pouvoir être renvoyés chez eux, quand ils n'obtiennent pas l'autorisation du pays d'origine pour repartir, le laissez-passer consulaire, eh bien, on ne les renvoie pas. Et au bout du délai, quand le délai est fini, on les fait ressortir du centre de rétention administrative. C'est une catastrophe.
Nadine Morano, on parle beaucoup de racisme en ce moment, déboulonner des statues.
Oui,
et puis
il faut enlever le mot race du dictionnaire.
Vous mangez.
Vous mangez du riz.
Oui, j'ai entendu.
Oui, mais il faudrait peut-être aussi enlever le mot problème du dictionnaire, comme ça, peut-être qu'on en aurait pu.
Oui. Hein, Nadine Morano, vous mangez du riz, Uncle Benz? Vous avez vu ce débat, non?
Oui,
vous n'avez pas vu le packaging qui est jugé raciste aux États-Unis?
Oui, non mais... moi, quand j'ai vu que Autant en emporte le vent était déprogrammé, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai adoré Autant en emporte le vent. Je l'ai regardé plusieurs fois et je pense que c'était un chef-d'œuvre.
Est-ce que vous êtes favorable à l'instauration de statistiques ethniques?
Je pense que ce serait intéressant de savoir... moi, je ne suis pas défavorable aux statistiques ethniques.
Oui.
Je ne suis pas défavorable. Voir un peu comment est composé notre pays, qui arrive, qui se retrouve en prison, comment est composée notre population carcérale. Je pense que les Français
ont le droit
de savoir.
Le seul objectif, et non pas pour lutter contre les discriminations.
Bah, lutter contre les discriminations.
Elles existent.
Vous savez,
elles existent. Elles sont même en augmentation.
Oui, mais. Moi, je
d'après
pense
la Ligue des droits de l'homme.
Oui, mais je ne pense pas que le racisme, quand on parle de racisme, qui est basé sur la couleur de peau, on appartient tous à l'espèce humaine, qu'on soit noir, blanc, qu'on soit bon. On est tous pareils. on a les mêmes droits, mais aussi on a les mêmes devoirs. Je crois que ce qui dérange surtout dans des pays qui subissent une immigration forcée, on va dire forcée, parce que les gens qui arrivent dans notre pays, qui sont venus en demandant l'asile, sans respecter les règles, qui ne repartent pas, les gens ne tolèrent plus cette immigration forcée. Et en même temps, c'est les comportements que les gens ne tolèrent plus. Donc c'est pas un racisme de couleur de peau, c'est plutôt un racisme qui correspond à un comportement de communauté et de culture qu'on veut nous imposer, justement, qui n'est pas la nôtre.
Justement, il y a un rapport de la Commission consultative des droits de l'homme qui dit que 45% des Français pensent que l'islam est une menace pour l'identité de la France. Vous aussi ?
Oui, moi je pense que l'islamisme, je pense pas que les musulmans...
Je vois l'islam, je parle pas d'islamisme, oui. Je veux faire la différence quand même.
Oui, mais quand vous avez aujourd'hui... Oui. Moi, j'ai beaucoup côtoyé des gens qui sont issus de l'immigration. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire, comme vous le savez.
Vous savez
que dans un quartier populaire, on a tendance à nous faire croire qu'il y a des gens issus de l'immigration, mais il y a aussi des blonds aux yeux bleus qui sont dans ces quartiers populaires. Et je peux vous dire qu'à l'époque, les populations immigrées y étaient minoritaires en termes de nombre. Après, quand vous avez une population qui devient immigrée, mais de manière beaucoup plus importante dans un quartier, moi, dans l'école où j'ai grandi maintenant, où je suis allée quand j'étais
il y a aussi de la mixité, beaucoup de mixité.
Il y a beaucoup de mamans voilées qui viennent chercher leurs enfants à l'école. Je suis allée constater par moi-même. Bon, on voit qu'aujourd'hui, il y a un basculement de population. Moi, il n'y avait pas de mosquée dans mon temps, dans mon quartier. Maintenant, il y en a deux. Et en revanche, l'église, gêne, la Vierge des pauvres, il y a quasi plus de fidèles qui y va. Quand il doit y avoir une religion, puisque nous sommes dans un État laïque, la République est laïque, mais la France a des racines chrétiennes. Eh bien, je crois que chacun doit pratiquer sa religion dans le respect de nos lois. Et c'est en cela que l'islam est considéré comme une menace. Quand vous voyez l'islamisme et les radicaux islamistes vouloir imposer leurs règles et leurs lois dans les quartiers populaires.
Manuel Valls dit la guerre entre races risque de remplacer ou va remplacer la lutte des classes. Vous êtes d'accord ?
Mais je crois qu'il a pas tort. Mmh. Il a pas tort. Mmh. Mais c'est une vérité. Quand vous avez aujourd'hui des Tchétchènes qui combattent contre des Maghrébins qui se retrouvent à la mosquée pour faire un pacte de non-agression, excusez-moi, mais dans quel pays on vit ? Mais moi, j'en ai ras-le-bol de tout ça. Quand j'entends les Tchétchènes nous dire mais nous, on est venus défendre un jeune, on doit respecter nos lois. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas une communauté contre une autre. C'est la justice ici qui doit régner. C'est l'autorité de l'État, c'est l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire, ces communautés qui viennent se bagarrer chez nous ? Moi, je veux pas d'une libanisation de la France. Quand j'entends « mais on veut déboulonner les statuts parce que, vous comprenez, nous, Français issus de l'immigration, qu'est-ce que ça veut dire, Français issus de l'immigration ?» Quand on est Français, on accepte...
C'est que beaucoup de ces Tchétchènes sont devenus Français.
On accepte, quand on veut venir en France, et quand on veut devenir Français, et quand on est devenu Français, eh bien, on accepte notre culture, on accepte nos lois, on accepte notre histoire avec. Parce que si on n'est pas content, on prend ses valises et on s'en va.
Bien.
C'est clair.
Alors, je terminerai sur l'Union européenne. Plan de relance, 750 milliards d'euros. Est-ce qu'il faut vraiment mutualiser les dettes ?
Écoutez, je suis assez sceptique sur la proposition qui nous est faite par la Commission. On va voir. Il va y avoir des discussions qui vont être...
Mais j'ai même vu que le Parlement demandait 2000 milliards.
Mais alors, bon... Non, mais ce qu'il faut voir, la proposition qui sera faite, qui va être examinée, la proposition de la Commission va être examinée par les États membres.
Oui.
D'abord, tout le monde n'entre pas dans cet examen avec l'esprit fait de la même manière. C'est-à-dire que l'Allemagne entre dans cette... post-crise Covid, avec beaucoup plus d'atouts économiques.
Oui, d'accord.
Vous avez des pays plus faibles.
750 milliards, faut-il, oui ou non, mutualiser la dette ?
750 milliards, dont 500 milliards de subventions, 250 milliards d'emprunts. Oui. Qui remboursent, quand, comment ? Et beaucoup de pays, ce qu'on appelle les pays frugaux, c'est-à-dire ceux qui savent bien gérer, ont vraiment des réserves parce qu'ils veulent savoir. Nous, on serait le troisième pays qui bénéficierait de ces subventions. Mais,
c'est bien.
Oui, non, mais c'est bien, mais il faut savoir qui paye et comment. Donc tout ça n'est pas encore très clair. Moi, je crois qu'il faut évidemment qu'on soit solidaires ensemble. Il faut voir maintenant les modalités. pas trop d'endettement, je vous le dis, parce que s'il faut payer pour les autres, on n'est pas sorti. Parce que nous, on est quand même très mal barrés. Hein. Quand vous voyez nos résultats au premier trimestre, s'agissant du PIB, c'est nous qui sommes un des pays les plus touchés, hein, avec moins 5,8 du produit intérieur brut en moins, alors que l'Espagne est à moins 5,2 et l'Italie à moins 4,7. L'Allemagne, elle, part avec les reins beaucoup plus solides. Hein.
Merci Nadine Morano d'être venue nous voir.
Merci à vous.
Il est 8h55, RMC et BFM TV.
RMC.